Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Vous allez nous rappeler ce matin qu'il est encore temps de planter des chèvrefeuilles.
Et oui, des arbustes le plus souvent grimpants et faciles à trouver dans le commerce. Il en existe une très grande diversité, près de 180 espèces, toutes ou presque originaires de l'hémisphère nord. Alors l'intérêt des chèvrefeuilles est bien sûr leur faculté à recouvrir murs, pergolas et tonnelles, à offrir des fleurs blanches, roses, rouges ou jaunes, mais aussi à surtout à produire des senteurs d'une très rare délicatesse, n'en déplaise à quelques-unes.
Alors pourquoi le chèvrefeuille s'appelle le chèvrefeuille ? Alors,
il est vrai que son nom, pour ce qui me concerne, me fait un peu penser à une fable de La Fontaine. Au XVIIIe siècle, la plante avait pour nom botanique caprifolium, ce qui signifie en latin « feuille de bouc ». Jusqu'à ce que Linné, je parle bien de Carl von Linné, ce géant de la botanique suédoise, baptise l'arbuste Lonicera en hommage à un botaniste allemand, Adam Lonitzer. Le nom vernaculaire, lui, n'a jamais changé et est depuis toujours chèvrefeuille. Certainement, c'est une hypothèse, ce n'est pas une garantie.
D'accord.
Pour les chevreuils, boucs et chèvres qui se délecteraient de son feuillage.
Alors, Anatole France évoque le chèvrefeuille dans son premier roman, Le crime de Sylvestre Bonnard.
Oui, j'avais choisi cette petite citation en référence demain à la fête des grands-mères. Et puis malheureusement, ça ne s'adresse pas aux grands-mères, mais plutôt aux grands-pères. Car dans cet ouvrage paru en 1881, il fait dire à une jeune fille face à son tuteur, j'adore cette petite phrase, « Je regardais vos cheveux blancs, ils s'enroulent sur les bords de votre chapeau comme du chèvrefeuille sur un balcon, ils sont très beaux. » Et je les aime beaucoup.
C'est vrai que c'est beau.
Vos conseils à présent, Alain Baraton. Lorenzo a des plantes qui vont mal, sans doute, dit-il, à cause d'une eau rouillée. Dois-je les rempoter ?
C'est amusant parce que dans les petits carnets de trucs et astuces que l'on trouve souvent dans le commerce, il y a comme truc conseillé pour donner justement de la vigueur aux plantes et de laisser des clés rouillées au fond de l'eau, car l'eau rouillée serait un petit plus pour le végétal.
C'est le fer qui est bon pour...
Oui, tout à fait, ça permet, et puis ça permet également de lutter parfois contre quelques maladies fongiques. Donc non, ça vient pas de l'eau rouillée. Et quant à l'idée de rempoter des végétaux parce qu'ils ont été mal arrosés, je ne vois pas la relation non plus.
D'accord.
Denise vous demande, Alain Baraton, dois-je rempoter un saule crevette-tige acheté l'année dernière? Elle précise qu'il mesure environ 1,50 m.
Alors déjà, le saule crevette, le véritable nom, c'est le Salix integra acuronishiki. C'est une plante originaire du Japon qui est un petit saule compact aux formes merveilleuses. Mais c'est assez amusant, cette obsession de vouloir rempoter, transplanter ou tailler les végétaux. La transplantation est pour la plante un traumatisme. Quand on rempote un végétal, c'est qu'il en a besoin. Donc, attendez avant de rempoter. La seule méthode consiste à retirer la plante du pot, donc on la soulève, et on voit s'il y a quantité de chevelu blanc en périphérie de la motte. Si c'est le cas, oui, on peut envisager de replanter. Si ce n'est pas le cas, on remet délicatement, on arrose.
Mais à 1,50 m, c'est grand, donc on peut imaginer qu'il faut un pot plus important.
Oui, bien entendu, mais c'est pas si énorme que ça, parce que le saule crevette est une plante assez légère, et généralement, quand il fait 1,50 m de hauteur, c'est à l'extrémité d'une tige qui, elle, fait 1,50 m, mais la ramure est beaucoup moins importante.
Monsieur le jardinier, Juliette vous demande comment et quand tailler mon tamaris de printemps.
Il y a deux tamaris. Le tamaris de printemps, comme Juliette nous le rappelle, le tamaris d'été. On fait très simple. Le tamaris de printemps se taille après la floraison. Donc, allez, en juin, juillet, on peut le tailler et on peut le tailler court. Quant au tamaris d'été, on le taille maintenant. Donc, faut pas tout confondre. Parce que le tamaris d'été produit des fleurs sur le bois de l'année. Donc, si on le taille à une mauvaise période, on risque de manquer de fleurs. Donc, je rappelle, le tamaris de printemps se taille
après
en été et le tamaris d'été se taille au printemps. Vous me suivez ?
Je vous suis, je prends des notes. Fabienne vous demande, Alain Baraton, pourquoi les feuilles de chêne ne commencent que maintenant à tomber des arbres, alors que de tous les autres arbres de notre jardin, il n'y a que... les feuilles sont tombées depuis longtemps.
Fabienne n'écoute pas souvent ma merveilleuse chronique apparemment, car vous-même, je crois, avez retenu la leçon. Pourquoi les chênes, d'après vous, perdent-ils leurs feuilles très tardivement?
Vous disiez il y a quelques jours, c'était des feuilles marcescentes, c'est-à-dire qui sèchent, mais qui restent accrochées
et qui vont chuter avec l'apparition des nouvelles. Bravo, monsieur Delvaux.
Vous nous donnez des bons conseils, Alain Baraton, et je vous dis, je prends des notes, c'est pas pour rien. Sylvie, qui a habite Saint-Raphaël. Elle a des camélias et des hibiscus en pot à l'extérieur. Ils font des boutons qui ne s'ouvrent pas et eux sèchent aussi sur pied.
On fait très simple. L'immense majorité des arbustes en pot qui produisent des fleurs qui ne s'ouvrent pas généralement souffrent d'un problème d'humidité atmosphérique. La plante a besoin d'avoir...
Humidité atmosphérique, il y a toujours de l'humidité.
Oui, mais il y en a peut-être pas assez parce que souvent, en ville, c'est sec, ça manque un petit peu d'humidité dans l'air. Il suffit simplement de prendre un pulvérisateur, de faire chip-chip sur le végétal assez régulièrement et vous verrez que miraculeusement, eh bien, les boutons s'ouvrent et donnent naissance à des fleurs. Le camélia, par exemple, est originaire des plateaux montagneux du Japon et de Chine. Ce sont des plantes qui ont besoin... Vous savez, le matin, ce sont des plateaux où on voit une brume légère qui survole la végétation. Eh bien, recréez cette ambiance et vous verrez que vos camélias, hibiscus et autres végétaux sera sublime.
L'hibiscus, quand même, c'est sensible, hein, c'est fragile. C'est pas si simple que ça, surtout en pot.
Surtout, il existe deux sortes d'hibiscus. Celui du jardin qu'on appelle Althea. Vous faites certainement, Karine, allusion à l'hibiscus merveilleux qui produit de grandes fleurs en forme de trompette, qui lui, effectivement, est très délicat.
Merci Alain Baraton. Un dernier conseil pour le week-end.
Oui, on a jusqu'au 21 mars, dernier délai, pour aller au Muséum d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes de Paris. Pour l'exposition, ça fera très plaisir à Karine. 1000 pieds d'orchidées. C'est-à-dire 1000 pieds d'orchidées.
J'ai l'impression que c'était une spéciale dédicace.
C'est une taquinerie. Oui. Donc à Paris, une très belle exposition dans les serres. Elles sont magnifiques.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Karine n'aime pas beaucoup les orchidées. C'est bien ça l'histoire.
C'est pas ma fleur préférée.
Bon, vous avez le droit. Vous avez bien le droit. Merci Alain Baraton.
À demain.
On vous retrouve demain à la même heure. Il est 8h moins 10.